Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes, le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici le bulletin de l'information de la voix de l'Indonésie. Tout d'abord, le titre de l'actualité. Coopération commerciale entre l'Indonésie et la Corée cible 30 milliards de dollars. L'Indonésie s'est officiellement proposée pour accueillir les Jeux olympiques de 2032. La coopération entre les secteurs est nécessaire pour réaliser un développement à faible émission de carbone. Mohamadiyah, la coopération culturelle et éducative devient l'unificateur de l'Asie du Sud-Est. L'Indonésie et la Corée mènent librement leurs échanges. Le gouvernement prépare un règlement sur la fortification des aliments. Voici le bulletin complet. Le ministre indonésien du commerce Enggartiasto Lukita et le ministre du commerce de la Corée du Sud, Hyun Chong Kim, se sont rencontrés mardi à Jakarta pour discuter de l'amélioration des relations commerciales et économiques entre les deux pays. Ils ont convenu de réactiver l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée, ICA-CEPA. La ministre Enggartiasto a indiqué que l'objectif des deux chefs d'État d'atteindre 30 milliards de dollars américains au cours des trois prochaines années.
Relaunch kesepakatan ini juga dilanjutkan dengan business forum mempertemukan kedua.
La relance de cet accord est également continuée avec le forum d'affaires réunissant deux groupes d'entrepreneurs indonésiens et coréens en termes d'investissement et de commerce. Ainsi, l'objectif fixé par les deux chefs d'État d'un montant de 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines années peuvent être atteints. Nous convenons également que cet accord devrait être signé en novembre prochain lors de la réunion des deux chefs d'État. Cela veut dire substantiellement doit être finalisé avant novembre. Selon le ministre Enggartiasto, les négociations visent à atteindre les objectifs économiques des deux pays qui renforceront les relations bilatérales de commerce et d'investissement au plus haut niveau. L'Indonésie s'est officiellement proposée pour accueillir les Jeux olympiques de 2032 en remettant une lettre du président indonésien au président du Comité international olympique, Thomas Bach, au secrétariat du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse. Le communiqué de presse de l'ambassade d'Indonésie à Bern, cité par Antara, indique que la lettre a été remise par l'ambassadeur d'Indonésie à Bern, Mulyaman D. Haddad, le 11 février 2019. Auparavant, le président indonésien a exprimé verbalement le souhait de l'Indonésie d'accueillir les Jeux olympiques à Thomas Bach lors de sa visite en Indonésie en 2018. L'ambassadeur d'Indonésie à Bern a déclaré que sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques de 2032 pourrait être une bonne occasion de montrer les capacités économiques de l'Indonésie, en particulier en tant que quatrième plus grande population du monde et le membre du G20. L'ancienne secrétaire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Cristiana Figueres, a déclaré l'importance de la coopération entre les secteurs pour réaliser un développement à faible émission de carbone. Cela a été dit par Cristiana Jakarta lors du lancement du réseau indonésien à faible émission à Jakarta mardi. Cette coopération est fondamentale pour réaliser un développement à faible émission de carbone. L'Indonésie a l'espoir de renforcer la planification du développement à faible émission de carbone dans les plans de développement à moyen et à long terme. Selon Cristiana, l'Indonésie entre dans l'année politique en avril prochain. Les questions relatives aux émissions et aux changements climatiques ne sont pas des intérêts politiques, mais la responsabilité de toutes les générations. Le secrétaire général de la direction centrale de Muhammadiyah, Abdul Mukti, a déclaré que la coopération dans les domaines de l'éducation et de la culture permettrait d'unir les pays de la région de l'Asie du Sud-Est. Cela a été déclaré mardi par Abdul Mukti au campus principal de l'Université Ahmad Dahlan, Yogyakarta, en marge de la Conférence internationale sur la société civile progressiste 2019, ICON PROX 2019, organisée par l'Université Ahmad Dahlan. Abdul Mukti a déclaré que la coopération dans le domaine de l'éducation et de la culture pouvait également améliorer les bonnes relations entre les pays de l'Asie du Sud-Est. Néanmoins, selon lui, la coopération en dehors des domaines de l'éducation et de la culture doit être renforcée pour faire face aux défis mondiaux à l'avenir qui seront de plus en plus complexes. Le recteur de l'Université Ahmad Dahlan, Kasi Arno, a déclaré que l'université qu'il avait dirigée avait coopéré avec plusieurs universités de la région de l'Asie du Sud-Est, en particulier dans le domaine du développement de l'éducation. L'Indonésie et la Corée conviennent maintenant de renforcer le secteur commercial. L'engagement des deux pays s'est reflété dans un accord de partenariat économique global, CEPA. Le ministre du Commerce Enggar Tiasto Lukita a déclaré que le potentiel de la valeur commerciale des deux pays serait maximisé. Depuis longtemps, les deux pays ont également adhéré à l'accord de libre-échange ASEAN-Corée, RCEP. Enggar Tiasto Lukita, dans le forum d'affaires de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée, IKCEPA, a déclaré mardi à Jakarta que la signature de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et la Corée avait été faite par le ministre Enggar avec son homologue coréen Kim Hyun-chung. Thomas Lembong, président du Conseil de coordination des investissements BKPM et des délégués d'affaires des deux pays, ont également assisté à l'événement. Le gouvernement indonésien cible la valeur du commerce avec la Corée atteigne 30 milliards de dollars américains à l'an 2022. La fortification des aliments est l'un des efforts pour résoudre le problème de la malnutrition en Indonésie. Pour cette raison, la régulation sous la forme d'un règlement du ministre de l'Industrie sera publiée pour réglementer cette question. Le ministre de la Planification du Développement National entend également le chef de l'Agence de Planification du Développement National, Bambang Brojonegoro, lors de l'atelier sur la fortification des aliments à Jakarta, a déclaré mardi que la régulation de la fortification était du ministère de l'Industrie, car l'industrie des aliments et des boissons allait d'enrichir. Non seulement l'industrie, il a ajouté que sa partie cible également les secteurs de l'agriculture, de la mer et de la pêche, car outre l'encouragement à la fortification des aliments, la biofortification doit également être développée en permanence. Chers auditeurs, c'était le bulletin de la formation de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le commentaire et en titre, la guerre civile au Yémen repose sur des engagements communs en faveur de la paix. Les efforts visant à mettre fin à la guerre civile au Yémen se poursuivent avec l'aide d'étrangers au milieu de la guerre civile sans fin. L'Organisation des Nations Unies continue d'essayer d'être le médiateur des deux parties rivales au milieu de situations incertaines. Dimanche, les Nations Unies ont envoyé Martin Griffiths au Yémen pour trouver une solution. Les outils ont déclaré que l'envoyé de l'ONU avait rencontré leur chef, Abdul Malek Al-Houthi. Le contenu des pourparlers a porté sur les efforts visant à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu conclu en décembre dernier en Suède. À cette époque, le gouvernement yéménite et les rebelles houthistes ont convenu de mettre fin à la guerre. Les deux parties ont convenu d'essayer de renforcer la confiance et d'arrêter les combats à Houda. Les deux sont également engagés à mener des échanges de prisonniers. Cependant, les attaques continuent. La ville portuaire principale du Yémen, Hodeïda, a été touchée par un cessez-le-feu et se trouve maintenant dans une situation préoccupante. En cas de non-respect de l'accord de cessez-le-feu, l'avenir du Yémen devient de moins en moins clair. La guerre civile dans un pays pauvre qui sévit depuis 3 ans a de plus en plus incité le peuple yéménite à vivre dans l'incertitude. La guerre qui a commencé depuis la présence de la résistance des Houthis a continué de s'envenimer. Les Houthis chiites continuent de se renforcer contre le gouvernement sunnite du président Abdurrabbu Mansour Hadi. Bien que l'organisme international des Nations Unies soit intervenu, la crise au Yémen n'a toujours pas été réglée. Pourquoi? En effet, la paix au Yémen ne peut être résolue que par des parties à l'intérieur du Yémen. La volonté de faire la paix et de vivre côte à côte en tant que compatriotes sans avoir à dépendre de partis étrangers est la clé de la fin de la guerre qui s'est avérée ne causer que des pertes et la misère. Chers amis, c'était le commentaire.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'information. Le 20 février 1967, IJGI a mené la première réunion. Le groupe intergouvernemental sur l'Indonésie, IJGI, est un consortium international créé par les États-Unis pour coordonner la fourniture d'un financement multilatéral à l'Indonésie. Les membres de l'IGGI comprennent la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international, le Programme de développement de l'ONU, la Banque mondiale, l'Australie, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et les États-Unis. IGGI a tenu sa première réunion à Amsterdam, aux Pays-Bas. L'Indonésie était représentée par Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dès 1967 à 1974, IJGI a tenu des réunions par an. Cependant, depuis 1975, la réunion n'a eu lieu qu'une fois par an en raison de l'amélioration de l'économie indonésienne. La première contribution de l'IGGI consistait à établir en Indonésie le programme du plan de développement quinquennal de l'Indonésie. Nous continuons en notre avènement. Le 20 février 1979, un gaz toxique dans la région de Dieng a tué 149 personnes. La tragédie s'est produite en raison de l'activité volcanique du cratère Sinila, situé entre les villages de Batur, Sumberjo, Pekasiran et Kopucukan, dans le sous-district de Batur, Banjarnegara, Java Central. D'après le rapport du Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, une éruption phréatique s'est produite dans le cratère Sinila et l'éruption a été suivie d'un gaz toxique survenu au nord-ouest du mont Dieng. Le cratère Sinila a explosé à 5h04 heure Indonésie occidentale après un tremblement de terre. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la Journée nationale des travailleurs. La création du 20 février en tant que Journée nationale du travail est conforme au décret présidentiel numéro 9/1991 sur la Journée nationale du travail qui a été signée par le président Suharto. Le 20 février 1973, la Fédération des travailleurs de diverses entreprises a déclaré la création de l'Union des travailleurs indonésiens. La création d'une Union indonésienne de travail vise à renforcer la solidarité des travailleurs dans toute l'Indonésie. Serviteurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Sebelumnya tak ada yang mampu mengajarku untuk bertahan di kala sedih. Sebelumnya ku ikat hatiku hanya untuk aku seorang. Sekarang kau di sini, semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tak mengerti, akankah sama jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkan, kau cinta pertama dan terakhirku. Sebelumnya tak mudah bagiku tertawa sendiri di kehidupan yang kelam ini. Sebelumnya rasanya tak perlu membagi kisahku, tak ada yang mengerti. Sekarang kau di sini, hilang rasanya. Semua bimbang tangis kesepian. Kau buat aku bertanya, kau buat aku mencari tentang rasa ini. Aku tambah jadinya bila bukan kamu. Lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama dan terakhirku. Bila suatu saat kau harus pergi, jangan paksa aku untuk cari yang lebih pertama dan terakhirku. Whoa.
kau cinta pertama dan terakhirku.
Cerita setelah Sangsong ang titulé cinta pertama dan terakhir Chanté par Sherina Munaf. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie en titulé Le ministère de la coordination des affaires maritimes apprécie le soutien de BPOM à l'exportation de sel cristallin. Cerita, nous continuons notre programme avec mon Indonésie et pour le titre Le ministère de la coordination des affaires maritimes apprécie le soutien de BPOM à l'exportation de sel cristallin. Le ministère indonésien de la coordination des affaires maritimes a bien accepté le soutien de l'agence de surveillance des aliments et des drogues, BPOM, pour que l'innovation des produits du sel cristallin puisse être exportée et distribuée plus facilement. Mercredi dernier, BPOM a envoyé une lettre pouvant faciliter la délivrance d'un certificat d'exportation pour les produits de sel comestible et de table. En plus de l'envoi de la lettre, BPOM a également fourni un bureau de consultation en exportation. Par conséquent, les produits exportés ne doivent pas obtenir une autorisation de distribution en accord avec la réglementation indonésienne, mais ils doivent respecter les réglementations de leur pays importateur. Les normes alimentaires telles que l'enrichissement en iode ne sont pas nécessaires tant que les pays importateurs n'en ont pas besoin. Le ministère de la coordination des affaires maritimes espère que, grâce à la délivrance du certificat par BPOM, les producteurs de sel et les entrepreneurs en sel communautaire n'auront aucune difficulté à enregistrer leurs produits, à obtenir une autorisation de distribution sur le marché et à exporter leurs produits à l'étranger. C'est ce qu'a déclaré Agung Kuswandono, député des ressources naturelles et des services au ministère de la coordination des affaires maritimes, dans son communiqué de presse reçu à Jakarta dimanche le 17 février. Agung Kuswandono apprécie le soutien apporté à tous les produits de sel transformés innovants dans le bout d'améliorer la prospérité des producteurs de sel indonésiens. Car la commercialisation des produits de sel locaux a toujours été entravée par la norme d'enrichissement en iode mentionnée dans le décret présidentiel numéro 69-1994 sur l'achat de sel d'iode. Avec la réglementation, les produits de sel locaux qui ne subissent pas d'enrichissement en iode ne peuvent pas être distribués sous forme de sel comestible ni dénommé sel de table. Il s'avère que le sel de table peut être transformé en sel de cristal. Le sel de table peut être mélangé avec des épices telles que l'oignon et le poivre pour devenir du sel épicé, même s'il peut également être transformé en sel de spa. Le sel de cristal est très demandé par de nombreux pays et exporté pour être utilisé comme assaisonnement pour des cuisines gastronomiques ou fines nécessitant du sel pour son enrichissement. Pendant ce temps, le sel épicé est devenu un favori sur le marché intérieur, en particulier pour la communauté alimentaire. Selon lui, l'innovation peut apporter une valeur supplémentaire qui peut soutenir l'économie des producteurs de sel. Grâce au soutien de l'Agence de surveillance des aliments et des drogues, BPOM, le sel de cristal transformé, par exemple le sel épicé, peut être enregistré auprès de BPOM sous un autre nom. Cela s'applique également à d'autres types de produits à base de sel cristallin qui vise à répondre aux besoins nutritionnels des personnes atteintes de troubles, par exemple les personnes atteintes d'autisme. Pendant ce temps, les produits salés non comestibles, par exemple le sel de spa, doivent être enregistrés en tant que produits cosmétiques. Chériteur, c'était mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Mengapa kita bertemu bila akhirnya dipisahkan? Mengapa kita berjumpa tapi akhirnya dijauhkan? Kau bilang hatimu aku, nyatanya bukan untuk aku. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkau lah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu. Bintang di langit nan indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkau nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilih.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Sempat Memiliki, chantée par Yovi et Nuno. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, cher Ritard, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et les sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans le magazine culturel. Pour ce soir, nous vous présentons le magazine culturel ayant pour le titre « L'exotique du village de l'île Bungin à Nusa Tenggara Occidentale ». Soyez toujours avec nous sur www.voi.co.id. La beauté de la nature indonésienne devient une référence pour les touristes nationaux et étrangers. L'Indonésie compte de nombreuses petites îles en cône de Tokus. L'une d'elles est l'île de Bungin dans la région de Sumbawa. L'île est située à 70 km à l'ouest du district de Sumbawa Besar. L'île de Bungin peut être accessible par bateau rapide. Le village de l'île Bungin est mentionné comme le plus peuplé du monde. Cette petite île est occupée par la tribu Bajo qui vient du sud de Sulawesi. Il n'y a presque pas de terre vide de l'île. Cependant, l'île continue de s'élargir car des travaux de remise en état sont effectués pour accueillir la nouvelle famille. En moyenne, il y a 100 nouvelles maisons chaque année sur cette île. L'île qui a 8,5 hectares de large est occupée par environ 3400 personnes. La plupart des gens de Bungin appartiennent à la tribu Bajo, Sulawesi du Sud. Ils sont bien connus en tant que nomades marins et plongeurs habiles. Depuis leur naissance, les enfants de Bungin ont été initiés à la marine par la cérémonie de Toya. Dans le rituel Toya, un bébé est assis sur une cuisse de cette femme alternativement en se balançant. La balançoire est comme une vague de mer à laquelle l'enfant doit faire face quand cet enfant grandit et devient marin. L'origine de l'occupation de l'île par les Bajo remonte à la création de la première colonie par Palema Mayu, fils de 6 enfants du roi Selayar au 19e siècle. Selon une histoire populaire, Palema Mayu serait venu à Sumbawa avant l'éruption du mont Tambora en 1812. À cette époque, l'île de Bungin au sable blanc était encore vide et uniquement envahie par les mangroves. Bien que l'île soit relativement petite, il y a deux quais à l'ouest et au sud de l'île. Alas Bungin en tant que crossover est assez encombré. 8 bateaux Johnson traversent Bungin Alas du matin au soir. En raison de son caractère unique, l'île de Bungin devient l'un des objets touristiques de la résidence de Sumbawa. Serviteurs et auditrices, c'était le magazine culturel avec le titre « L'exotique du village de l'île Bungin à Nusa Tenggara Occidentale ». Nous nous rencontrons demain avec le sujet plus intéressant encore. Merci de votre attention. À bientôt.
Voice of Indonesia.
Aku Karena kau pilih cinta yang salah, aku mengaku bisa, tapi hati tak bisa.
Secretaire, c'est la chanson du groupe musical Tanga intitulée Utu. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, tous les amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonésie, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Facilitas Hotel. Je répète, Facilitas Hotel, qui signifie la facilité de l'hôtel. Bonne étude. Je vais vous donner un exemple de conversation entre Tony et le service de chambre dont le titre est Facilitas Hotel, ou en français, la facilité de l'hôtel. Tony est à la chambre de l'hôtel. Après le bain, Tony veut se sécher les cheveux, mais il ne trouve pas de sèche-cheveux. Tony téléphone au service de chambre.
Selamat malam dengan housekeeping, ada yang bisa saya bantu?
Malam, saya butuh pengering rambut, boleh saya pinjam?
Pengering rambut ada di laci lemari, Pak.
Oh, baik. Saya lihat dulu ya. Terima kasih.
Sama-sama.
Comme d'habitude, je vais introduire des mots ou des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Je vais prononcer doucement et lentement chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Boleh saya pinjam pengering rambut? Boleh saya pinjam pengering rambut? Qui signifie, pourrais-je emprunter un sèche-cheveux? Laci. Laci. En français, le tiroir. Laci, lemari. Laci, lemari. Qui signifie tiroir de armoire. Pengering rambut ada di laci lemari. Pengering rambut ada di laci lemari. Qui signifie le sèche-cheveux est dans le tiroir d'armoire. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu. Qui signifie je vois d'abord. Pour demander quelque chose dont vous avez besoin, utilisez le mot perlu ou butuh. Saya perlu pengering rambut. Saya perlu pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Saya butuh pengering rambut. Saya butuh pengering rambut. En français, j'ai besoin de sèche-cheveux. Dans ce contexte, le mot perlu et butuh ont la même signification, c'est-à-dire avoir besoin de. L'autre exemple. Saya perlu handuk baru. Saya perlu handuk baru. En français, j'ai besoin d'une serviette. Saya butuh sisir. Saya butuh sisir. En français, j'ai besoin d'un peigne. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, dont le sujet est Facilitas Hotel ou en français la facilité d'hôtel, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation.
Selamat malam dengan housekeeping, ada yang bisa saya bantu?
Malam, saya butuh pengering rambut, boleh saya pinjam?
Pengering rambut ada di laci lemari, Pak.
Oh, baik, saya lihat dulu ya, terima kasih.
Sama-sama.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous.
Chère Rita, c'était la chanson intitulée Begitulah Cinta, chantée par Wadi Akbar et Kanya Pinandira. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chère Rita, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Les auditeurs de Voice of Indonesia, aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson de Java de l'Ouest dont le titre est Bulan di Changkuang par Reni. Bulan Changkuang est une chanson très romantique. Les paroles parlent du désir de quelqu'un de ressentir plus d'intimité au lac Changkuang. Dans le passé, la lumière de la lune recouverte de nuages témoigne de l'amour des deux personnes. Mais maintenant, même le clair de lune ne révèle pas les belles histoires des deux personnes qui sont déjà séparées. Le lac Changkuang est un lac situé au sous-district de Leles, au district de Garut. Il est magnifiquement entouré d'arbres. Ce lac a aussi une nuance historique en raison d'un temple situé au milieu du lac Changkuang. Bon, chers auditeurs, écoutons ensemble la chanson de Reni intitulée Bulan di Changkuang. Bonne écoute!
Thank you.
Voice of Indonesia.
C'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt!